chronique histoire, Viateur Lefrançois. Vous écoutez Choc FM 105.1 dans l'émission Retour de Choc. Je suis Guillaume Laurin et je rejoins maintenant notre spécialiste de l'histoire, l'écrivain Viateur Lefrançois, pour évoquer ensemble le destin si particulier de Charles Michel de Langlade. Bonjour Viateur.
Bonjour.
Alors parlez-nous de Charles Michel de Langlade. Où est-il né et quand?
Michel est né le 9 mai 1729, hein, donc c'est quand même très loin, mais il a marqué beaucoup son temps. Il est mort en 1801 à ce qu'il appelait l'abbé à l'époque, au Wisconsin. Donc il a été finalement chef de guerre amérindien, un officier colonial français, marchand de fourrure. C'est aussi une figure métisse importante pour le Canada, toute la Nouvelle-France, surtout du territoire, ce qui est aujourd'hui le territoire des États-Unis.
D'accord.
Il a joué un grand rôle, Nouvelle-Écosse, dans la guerre, par exemple, franco-anglaise, qui est franco-indienne plus pour les Américains.
Oui.
Et puis il a participé à une partie de la guerre de 7 ans, c'était la guerre de 7 ans, puis à la guerre d'indépendance aussi, donc américaine, donc il a fait du chemin là.
Ah oui, en effet, donc c'est un métis qui s'est illustré en tant que chef de guerre. Qui étaient ses parents, quelles sont ses origines?
C'est le fils d'un important marchand de fourrure canadien, donc de la Nouvelle-France, mais qui a œuvré beaucoup sur le territoire Détroit, Wisconsin, et ainsi de suite. Il s'appelait Auguste Langlade, et sa mère était une Amérindienne qui s'appelait Domitil, c'est la sœur d'un chef outaouais, Nissowake, donc qui finalement va vraiment beaucoup aimer Michel, son neveu, hein, Michel, et finalement c'est avec eux là, qui va vraiment commencer la guerre. Hein. C'est sûr que c'est très très fréquent à l'époque, hein, une union d'un Français et d'une Amérindienne, là, c'est intéressant. Il a été baptisé d'ailleurs le 9 mai 1729 à Mikili-Mackinac, qui est l'actuelle Mackinac, cité dans le Michigan.
D'accord, d'accord. Donc on l'a vu, il fréquente son oncle et il l'accompagne à la guerre dans sa jeunesse?
Ben en fait, au début, lui, il voulait toujours aller à la guerre. Il était tout jeune. Mais c'est parce qu'il faisait la guerre souvent à leurs voisins. Hein. Et le jeune Michel, lui, il insistait pour les accompagner, mais ses parents refusaient, là, toujours parce qu'il était trop jeune et tout ça. Mais finalement, surtout qu'il avait déjà perdu 2 guerres, cette tribu-là, donc, contre les Chickasaw, mais à l'âge de 10 ans, finalement, les parents vont céder, puis son oncle, le chef Nissowake, lui, va l'amener avec lui, et finalement, ben, il va être victorieux cette fois-là, donc c'est vraiment un baptême du feu, si on peut dire, pour Michel de Langlade.
En effet, hein, c'est intéressant de voir qu'à 10 ans seulement, ce garçon est devenu finalement une sorte de héros.
Absolument. Ben, d'ailleurs, les Outaouais vont en conclure que l'enfant, lui, il devait avoir bénéficié d'un esprit protecteur. Hein, donc, et là, il y a une réputation d'indestructible là, qui va le suivre tout au long de la cause de cette médaille des gars. Puis, après, il était beaucoup plus fort aussi. Hein. C'est une croyance qui est combinée à quand même, il y avait des qualités naturelles, ses liens de sang, tout ça, ils vont faire de lui un chef vraiment reconnu dans la région.
C'est ça. Il suivait aussi son père sur le territoire?
Oui, absolument. Il accompagne
les fourrures.
Son père, lui, c'est un explorateur aussi. Hein.
Ouais.
Et c'est sûr qu'il vendait de la fourrure, donc il partait très longtemps sur le territoire. En 1745, il va accompagner son père pour fonder un poste de traite, d'ailleurs, ce qu'il appelait le Fort Labbé à l'époque, qui est actuellement le Green Bay au Wisconsin. Donc déjà, il était assez jeune encore. Hein.
En effet, un destin très précoce. Il va devenir aussi militaire, vous l'avez dit, officier colonial français?
Oui, parce que finalement, les Français dominaient la région, les Amérindiens étaient très amis avec eux, donc il est devenu cadet. Son premier exploit militaire qui était reconnu date de 1752. Hein, c'est lors d'un raid sur Pikawilani en Ohio, là, qui est finalement un raid contre les Anglais.
C'est l'actuel Picard. Alors, les Britanniques convoitaient déjà les territoires français à cette époque-là?
Ah oui, ça commençait. Hein, déjà, la conquête est de 1759, donc Là, on est en 1752. Hein. Parce que c'est ça, ils étaient, les Français puis les Britanniques étaient en compétition pour le contrôle de la vallée de l'Ohio, puis des populations amérindiennes. Hein. Ils étaient très importants à l'époque parce que c'était eux qui occupaient le territoire. Donc, ils étaient ennemis des tribus. Fallait les conquérir, c'est par les armes, mais c'était pas tout le temps facile.
Ouais.
D'ailleurs, le commandant de la place, Pierre de Blainville, lui, n'avait pas réussi à convaincre les tribus Miami, par exemple, qui étaient sous l'autorité du chef Minesca, puis qui avait un surnom qu'il appelait la demoiselle. Donc, il avait refusé de quitter Pikawilani, puis qui était dans la zone d'influence britannique. Hein. Il y avait beaucoup de mélanges. C'était quand même. Il y avait beaucoup de en fait, les Anglais voulaient contrôler la région.
Et
les Français voulaient la garder, finalement.
Et alors, quand est-ce que l'Anglade entre en scène et s'illustre-t-il?
Ben, c'est ça. En fait, l'Anglade, il va être envoyé avec une troupe estimée à l'époque à 300 Français et Indiens sur, justement, Pikawilani. Ils vont attaquer parce que la plupart des hommes Miami étaient partis à la chasse. Donc, ceux qui restaient, les marchands anglais, ben, sont obligés de se rendre. Puis, le chef, lui, Menesca, il va être tué puis mangé aussi. Donc, parce que c'était la coutume de manger son ennemi pour s'approprier son courage, on peut dire.
Oui, c'est ça. Alors là, on approche de la guerre de 7 ans, n'est-ce pas, Viateur?
Ah oui, c'est ça, hein, ce qu'ils appellent, comme on disait, la guerre franco-indienne. C'est en 1754 quand Washington va tuer le Jumonville, qui était un général qui marque vraiment le début de la guerre en Amérique du Nord. Là. C'est en 1755, Michel, lui, de Landale, il est premier aspirant aussi. Et cette même année-là, il aurait planifié l'embuscade qui aurait permis la victoire de Jean-Daniel Dumas là, contre Edward Braddock, donc près du Fort Duquesne, qui est l'actuel Pittsburgh. Là. Puis en même temps de George Washington aussi, hein, il avait battu George Washington à la bataille de Monongahela, donc des noms de tribus indiennes là, de l'époque. Hein. Quand même, George Washington, c'était pas n'importe qui.
Oui, en effet. L'Anglade va participer à la victoire du Fort William Henry?
Oui, aujourd'hui, c'est le lac George hein, qui est très fréquenté par les touristes. Sa tribu va assurer le siège du fort, puis la destruction aussi des navires britanniques sur le lac. Ils ont contribué avec les Abénakis, d'ailleurs, au massacre de 200 Britanniques à l'époque, donc, qui va suivre la prise du fort. Donc, et ça, malgré l'opposition du général Montcalm, qui va intervenir personnellement pour arrêter vraiment ce massacre, si on peut dire, parce qu'il y avait quand même les articles de la capitulation aussi là, qui étaient en frein. Donc, c'était grave à l'époque aussi de capitulation. C'est important de suivre les règles.
Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la colère des Amérindiens, finalement?
En fait, il était assez de mauvaise humeur parce qu'il obtenait très peu de leur participation à la prise du fort. Hein. Normalement, ils s'appropriaient des biens et tout ça. Et Montcalm avait, lui, assuré le colonel Young, qui était le commandant du fort britannique, des honneurs de la guerre, puis un sauve-conduit pour ces 2000 hommes de troupes vers un autre fort, le fort Lidius, donc qui était 6 lieues plus loin. Donc, et finalement, c'est ça qui les a choqués. Là. Donc, ils n'obtenaient rien. Puis en même temps, ils aimaient ça aussi pour torturer leurs ennemis aussi. Hein.
Oui, on avait vu cela dans une précédente chronique. Alors, l'Anglade participa aussi à d'autres batailles, notamment avec le général Montcalm.
Oui, 1758, c'est la bataille victorieuse de Fort Carillon, là, en Ontario actuel. La bataille de Beauport en 1759, ça c'était toute une bataille aussi. Ces Indiens ont fait tout son groupe ont fait semblant de se rendre aux Britanniques. Donc ils étaient habillés d'habitude, ils étaient vraiment en petite tenue quand ils battaient, mais ils ont caché les armes dans leurs vêtements. Et quand les Anglais sont approchés pour les ont encerclés, ils sont levés, puis ils ont tué vraiment finalement 400 Britanniques. Là, donc finalement, c'est une grande victoire. Ça aurait pu finalement mettre fin à l'attaque de Wolfe. Mais il va finalement, c'est pas arrivé, là, il va se retrouver sur les plaines d'Abraham aussi avec Montcalm contre Wolfe en 1759, qui a décidé du sort de la Nouvelle-France.
Oui.
Puis il était avec le général Lévis aussi contre le général le gouverneur Murray à l'époque en 1760, quand ils ont repris Québec. Là, donc il était là vraiment tout le temps, la bataille de Beauport. D'ailleurs, il a failli capturer Jim Wolfe. Hein, ça, c'est intéressant aussi. Quand il y a eu le Beauport, c'était aux chutes Montmorency. Hein. Puis finalement, il est retourné à Mikili-Mackinac avec ses 400 Indiens après la capitulation de Montréal en septembre 60. C'était une épopée pour lui là, qui se terminait, mais une autre qui, si on peut dire, qui commençait.
En effet, on a vu ensemble la semaine dernière l'histoire du chef Pontiac lorsque celui-ci s'est révolté. Comment est-ce que l'Anglade s'est positionné?
En fait, il reste neutre. Hein. Il a pas aidé du tout Pontiac. Pourtant, c'était pratiquement la même tribu. Et au contraire, il va sauver les Britanniques qui furent attaqués dans leur fort. Donc, en réalité, il s'est très bien accommodé de l'invasion britannique. Hein. C'est sûr qu'il fallait finalement. Il pouvait pas vraiment être contre l'armée britannique.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc, sinon, c'est la mort qui pouvait les attendre aussi. Hein.
Et lors de la guerre d'indépendance américaine, Charles Anglade change encore de camp?
Oui. Même s'il était devenu officier d'une division, là, il va changer de camp en 1776, lui, à la tête d'Amérindiens, il va rejoindre les troupes loyalistes du général britannique Burgoyne. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une jeune femme qui est fiancée à un soldat britannique, Jane McCroy, qui est retrouvée scalpée. Donc, les guerriers indiens de l'Anglade sont mis en cause. Il est réprimandé. Les Indiens vont tous abandonner le champ de bataille de Burgoyne. Sauf que ils sont privés du soutien des Amérindiens, mais l'Angleterre va connaître la défaite de 1777 à la bataille de Saratoga. Donc, ça va causer finalement l'entrée en guerre de la France cette fois-là.
Et la mort de la jeune femme causée par un Indien a finalement changé le cours des événements?
Oui, hein, c'est intéressant de voir qu'une chose finalement un peu si banale en temps de guerre. Hein.
Ouais.
C'est ça, mais là, ce qui est arrivé, c'est que la propagande américaine va inciter 30 000 Américains à attaquer le général anglais Burgoyne. Donc, c'est un acte commis par un guerrier amérindien et la cause indirecte, la défaite britannique en Amérique, vous voyez.
Incroyable, les effets. Effet boule de neige, effet papillon.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, la désertion soudaine des Indiens s'explique par la propagande, finalement, aussi amérindienne, à Fort Stanwyck, qui faisait croire que les Américains étaient beaucoup plus nombreux qu'ils l'étaient. Sauf qu'après la défaite, le général britannique, lui, il va se plaindre au Parlement britannique au sujet de Charles Anglade, mais en réalité, finalement, il était à la recherche plus d'un bouc émissaire.
Hein. Oui, bien sûr. Alors, on constate que Charles Anglade est véritablement une figure qui se retrouve dans la plupart des victoires françaises en Amérique. Est-ce qu'il a joué un rôle après la guerre?
Coup arrivé, l'indépendance des États-Unis, il va continuer à travailler pour le département des affaires indiennes. Donc, il va demeurer actif, finalement, jusqu'à sa mort. Hein, et il se plaisait à parler des 99 combats auxquels il avait pris part. Pour ses compagnons, lui, quand il évoquait la conduite de l'Anglade, il déclarait qu'il n'avait jamais vu un homme aussi maître de soi et aussi intrépide sur les champs de bataille. Donc, c'est une légende.
Une légende qui, curieusement que cela puisse paraître après tant de victoires et tant de batailles, meurt dans son lit?
Ah oui, c'est ça. Exactement, c'est des dizaines d'affrontements armés. En fait, c'est que sa légende indestructible qui est prônée par les Indiens, là, vraiment, ça prouvait qu'elle était exacte.
C'est ça, Charles Anglade, l'indestructible. Quel est son héritage historique, Viateur?
Ben, il fut, avec son père, le premier colonisateur, hein, qui est devenu l'État américain du Wisconsin. Mm. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'État. Donc, et le comté de Landlade, dans le Wisconsin, est baptisé en son honneur. Donc, vous voyez que finalement, il a laissé son nom, contrairement à d'autres. Hein. Ben, c'est intéressant de voir comment les descendants des Français puis des Canadiens ont façonné quand même l'histoire des États-Unis.
On apprend et on se souvient toujours de milliers d'anecdotes historiques grâce à notre ami Viateur Lefrançois, écrivain. Merci beaucoup, Viateur, pour cette nouvelle chronique historique sur Choc FM 105.1.
Un plaisir.